Ça passait. Et là, on a passé au moins 45 minutes dans ce virage-là. Avance, recule, le moteur commence à surchauffer. Les esprits aussi. Là, on a prié, mais on n'a pas attendu la réponse du Seigneur. Finalement, j'ai dit, là, Lorraine, là, je ne suis plus capable, là, il faut que ça passe. Ça va passer, mais ça va frotter. Fait effectivement, là, ça fait crrrr, des deux bords, là, ah, non. En tout cas, on a réussi à sortir de là, mais on n'est pas allé au vignoble, on est allé à l'hôtel. Là, l'hôteliste, un bel hôtel, il dit, oh, on vous a préparé un beau petit verre de champ. Non, merci, non. Pff, non, non. Il devait nous trouver bêtes un petit peu, mais on n'était pas dans la joie, là. On n'était plus dans la joie. Bon, ce matin, on va adresser la dernière étape dans la repentance de David, dont il est question dans le psaume 51. Fait que tournez avec moi dans le psaume 51. Puis jamais j'aurais pensé là, qu'on passerait aussi longtemps dans le psaume 51, mais savez-vous quoi? C'est profond. Le psaume 51, c'est merveilleux, c'est l'Évangile, c'est riche, c'est beau, c'est incroyable. Quand j'étais jeune, comme j'ai dit la semaine passée, j'aimais pas ça. J'aimais pas ça, le psaume 21, c'était plate, c'était morne, c'était... Puis l'épisode de David avec Bathsheba, ça, il faudrait arracher ça de la Bible. Tu sais, mais là, aujourd'hui, je vois toute la beauté parce que... Psaume 51. À date, on a vu reconnaître, hein? David se laisse reprendre. On l'a vu ça la semaine passée, il se laisse reprendre. Il a dit dans un autre psaume que le juste me frappe, c'est une bénédiction. On se laisse reprendre. Dans l'Église ici, en passant, là, on a une alliance relationnelle. On n'en parle pas souvent, mais un des points dans l'alliance relationnelle, c'est qu'on se laisse, on accepte de se laisser reprendre avec douceur, dans le but de bien faire, mais on accepte de se laisser reprendre. Bon, David, il reconnaît son péché. On a vu que reconnaître son péché, c'est pas évident parce qu'on est tous quoi? Des aveugles spirituellement. Nous sommes aveugles. Toi, moi, tout le monde, nous sommes aveugles. On est capable de voir le péché chez l'autre. On n'est pas capable de voir notre péché. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. C'est pour ça que David avait besoin que Nathan vienne lui raconter une petite histoire, puis que, oups, tout d'un coup, le Saint-Esprit lui a montré, c'est toi l'homme. Ouf! Ouf! On a vu que David voulait revenir. La chose la plus difficile quand on a manqué notre coup, quand on a péché, puis qu'on se dit, qu'est-ce qui m'est rentré dans la tête, voyons, de faire ça ou de dire ça? La chose la plus difficile de faire, c'est quoi? C'est de revenir à Dieu. La honte nous empêche, la peur nous empêche. Mais David revient, pourquoi? Parce qu'il est motivé par la joie d'une relation restaurée. Il dit, les os que tu as brisés vont chanter de nouveau. Mets tes louanges sur ma bouche, Seigneur. David, c'est un adorateur. Hein? C'est un adorateur, puis son cœur soupire après ça. Il recherche le pardon de Dieu basé non pas sur sa bonté, mais sur la bonté de qui? De Dieu. Comme j'ai dit la semaine passée, souvent on a la tendance, les êtres humains, à dire, ben, tu devrais me pardonner parce que dans le fond, je ne suis pas une mauvaise personne. Je ne suis pas si mauvais que ça, dans le fond, tu sais. Fait que là, on s'appuie sur quoi? Notre bonté. Mais David, il ne fait pas ça. Il dit, regarde, moi, je suis pécheur depuis le ventre de ma mère. Il reconnaît que le péché, là, c'est pas quelque chose qui est venu de l'extérieur vers lui. Et ça, on est expert là-dedans. On a vu toutes les façons qu'on peut s'esquiver, là. Hein? On a vu ça, là. Toutes les façons qu'on peut s'esquiver de reconnaître qu'on est pécheur. Puis une des choses qu'on fait, c'est qu'on se positionne en tant que victime. Je suis une victime d'une situation, je suis victime de l'autre. Regarde ce qu'il m'a fait faire. Donc, le péché, on le voit comme quelque chose de l'extérieur qui vient nous attaquer. Mais non, David dit non. Regarde, il reconnaît, Seigneur, moi, là. Je suis pécheur depuis le ventre de ma mère. J'ai hérité d'une nature pécheresse et je pêche parce que je suis pécheur. Et non l'inverse. Il y a beaucoup, beaucoup de leçons, non? Dans le psaume 51, beaucoup, beaucoup de vérités. Il recherche le pardon et il reçoit le pardon. Il dit, lave-moi et je serai plus blanc que neige. David, voyons, t'as oublié ce que t'as fait? Non, il n'a pas oublié ce qu'il a fait, là. Il n'a pas oublié ce qu'il a fait. Il a fait l'adultère avec la femme du voisin. Il a tué le voisin, puis il l'a caché. Hey! Puis là, tu dis, lave-moi, puis je serai plus blanc que neige. C'est pas audacieux, ça? Non, c'est pas audacieux, c'est l'Évangile. Et purge-moi avec l'hyssope. On a vu que l'hyssope, c'est une branche qu'on trempait dans le sang de la victime, puis qu'on aspergeait pour que la personne soit purifiée. Et c'est une image de ce que Jésus a fait à la croix, pas vrai? C'est une image. Le psaume 51, c'est l'Évangile pur. C'est incroyable. Après ça, on voit que David veut restaurer. Ce n'est pas assez de revenir, puis de s'asseoir sur un banc, sur le côté de la porte, puis de dire, OK, je te reprends, là, Dieu, David, mais il reste là, puis il reste tranquille, là. Non, il veut restaurer la relation. Et Dieu veut autant que lui, sinon plus. Donc, David dit au verset 12, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il veut renouer avec Dieu. Ça passe par un cœur et un esprit qui sont alignés avec Dieu, par une vie christocentrique, c'est-à-dire au lieu d'égocentrique. David veut retrouver sa position d'adorateur de Dieu et revenir dans la communion avec Dieu. Et non seulement la communion, mais l'union. Hein, on a vu ça là, la semaine passée. Communication, communion, union. Et souvent, les chrétiens, on reste au premier stade avec Dieu. On communique avec Dieu. On parle, mais nos vies ne sont pas alignées avec ses intérêts. On n'est pas nécessairement en communion avec lui. Et l'autre étape, c'est d'être vraiment en intimité avec Dieu. Un avec lui. Jésus a dit, « Père, je veux qu'il soit un avec moi, comme je suis un avec toi. » On a vu tout ça. Et Dieu veut restaurer la relation avec David autant que lui, sinon plus. Comment il le fait? Par l'Évangile, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de ce qui a été fait. Et on a vu que l'Évangile, ce n'est pas un bon conseil, c'est une bonne nouvelle. Un bon conseil, c'est « fait, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et ça va porter telle affaire. » Non, l'Évangile, ça t'annonce ce qui a été fait déjà, c'est déjà fait. Jésus a fait quoi? 2000 ans, il est monté sur la croix pour toi, pour s'identifier à toi, pour prendre tes péchés sur lui et te permettre d'être réconcilié avec Dieu à cause de son sacrifice. Donc, tout ça, on a vu dans le psaume 51. Et maintenant, on vient au dernier point qui est de réparer. Donc, on va lire le psaume, relire une partie du psaume 51. À partir du verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Verset 15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais fait. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur, brisé et contrit. Répands ta grâce, par ta grâce, tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cette richesse que tu as mise dans ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Merci pour cette parole, Seigneur. Et on te prie, Seigneur, ce matin, encore une fois, par ton esprit, donne-nous sagesse et révélation pour comprendre ta parole, pour la saisir et l'accepter et l'appliquer, Seigneur, dans nos vies. Alors, Seigneur, que ton esprit prenne le contrôle de cette rencontre ce matin, prenne le contrôle de mes lèvres, de mes pensées, pour la gloire de Jésus. Amen. Donc, ce matin, ce qu'on va voir, c'est ici la phrase sommaire, une repentance authentique aboutit à une expérience profonde de la grâce de Dieu, ce qui produit le désir de réparer ce qu'on a brisé et à ne pas recommencer. Donc, on va voir trois points. La réparation fait partie de la repentance. Qu'est-ce que David s'engage à réparer? Et la grâce, serait-ce une licence pour pécher? Donc, le premier point, c'est la réparation fait partie de la repentance. La Bible enseigne que la vraie repentance va produire un désir de réparer. Si on retournait voir dans 2 Samuel chapitre 12, lorsque Nathan il raconte la petite histoire là, que je vous ai rappelée tantôt de la brebis, eh bien, David, il s'enrage, hein? Avant que Nathan lui dise « C'est toi l'homme », il s'enrage, il dit « Cet homme mérite la mort et il restituera quoi? Quatre fois. » Pourquoi il a dit ça? Parce que David connaissait bien les Écritures. Et c'était la loi de Moïse spécifiait que si quelqu'un volait quelque chose, il devait restituer quatre fois ce qu'il avait volé. Et David était le leader de la nation. Il avait le droit de prononcer ce jugement-là. Il avait le droit de rappeler que c'était ça la loi. Mais là, ça s'appliquait à lui. Vous vous rappelez l'histoire de Jésus quand il arrive chez Zachée, le collecteur d'impôts, lorsqu'il rentre dans la maison de Zachée. Puis Zachée est complètement transformé par cette rencontre-là avec Jésus. Il se repent et qu'est-ce qu'il dit? « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai pris trop d'argent de quelqu'un, je lui rends quatre fois plus. » Jésus dit alors, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Voyez-vous comment est-ce que la réparation fait partie de la repentance? Si le cœur n'est pas à réparer, il n'y a pas de repentance réelle. Tu peux avoir des regrets, tu peux avoir des remords, mais si ton cœur n'est pas disposé à réparer ce que tu as brisé, il n'y a pas de repentance authentique. Jésus dit, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Pourquoi? Parce qu'il y avait du fruit, le fruit de la repentance. Alors, la réparation, parfois c'est possible, parfois non. Mais lorsqu'on est réellement repentant, on cherche à réparer les torts qu'on a faits. Dans le cas de David, évidemment, il lui est impossible de restaurer la brebis volée. Il a volé la femme d'Uri, il a tué Uri par la main de ses ennemis. Uri est mort, il ne peut pas le ressusciter. C'est la triste réalité. Il ne peut pas lui restaurer sa femme. Dans la loi de Moïse, si on ne pouvait pas restaurer à la partie lésée, on devait restaurer à Dieu. Parce que Dieu est toujours concerné. Lorsque je te fais mal, là, lorsque je pêche contre toi, là, j'ai péché contre toi, mais par le fait même, j'ai péché contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui a établi les normes. Les règles, si on veut, je veux que vous vous traitez comme ça. Donc, si on ne se traite pas comme ça, on pêche contre Dieu aussi. Donc, si on ne pouvait pas restaurer à la personne, on devait restaurer à Dieu. On voit aussi que la réparation fait partie intégrante de l'Évangile, dans le fond. Jésus est venu payer pour nos péchés, mais aussi restaurer et réparer nos vies brisées. Pas vrai? Maintenant, on voit que la réparation fait partie de la repentance. Qu'est-ce que David s'engage à réparer? Bien, il faut premièrement regarder ce qu'il a brisé. Qu'est-ce que David a brisé encore, à part voler la femme du voisin et tuer le voisin et cacher tout ça, à part ça? Qu'est-ce qu'il ne peut pas rétablir ça? Bien, David était le leader spirituel de la nation. De la nation, Dieu dit, « J'ai appelé David de derrière les brebis pour venir devenir le berger de mon peuple. » Le berger, ça veut dire quoi? C'est le leader. S'il faut qu'il donne l'exemple. Hein? Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui fouette le monde pour le suivre. Là. C'est quelqu'un qui développe la confiance dans les gens. Les gens veulent le suivre. Et la base de ça, là, c'est d'être un modèle. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais d'être un modèle, quelqu'un à qui on peut faire confiance, quelqu'un que les bottines suivent les babines. Hein? Si les bottines ne suivent pas les babines, les brebis ne suivront pas le berger. Hein? Fait que David, il a brisé quelque chose là. David, il n'a pas donné un bon exemple à suivre, il a donné un très mauvais exemple à son peuple. Et plus que ça, la Bible dit que David a fait blasphémer les ennemis de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot blasphème, là, c'est pas sacré, là, OK? C'est pas dire tab. C'est parler en mal de. C'est ça que ça veut dire blasphémer, littéralement, OK? Fait que Dieu dit à David, tu as fait blasphémer mes ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ses ennemis se sont donnés à cœur joie pour parler contre le Dieu de David. Ah ouais, David, c'est un homme de Dieu, hein? Ah ouais, ben si c'est ce Dieu-là qui suit, là, ah ben là, il peut le garder son Dieu. Hein? Les gens se sont détournés de Dieu à cause de ce que David a fait. Ça, c'est grave, là. Les gens ne voulaient rien savoir du Dieu de David à cause que David avait volé la femme d'un autre, il avait tué le mari et caché tout ça, essayé d'enterrer tout ça. Malheureusement, à travers les siècles, les êtres humains qui portaient le nom de Dieu ont fait quoi? Blasphémer le nom de Jésus, le nom de Dieu, par leurs actions. La raison numéro un pourquoi les gens évitent les églises comme la peste au Québec aujourd'hui, en 2025, c'est quoi? Ils disent, ils sont hypocrites. C'est pas moi qui le dis, ça a été étudié, là. C'est la raison numéro un. Ils sont hypocrites, une gang d'hypocrites. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Dieu connaît les cœurs. Exact. Merci, ma soeur. Alors, ça peut être une excuse, mais en même temps, hein, ça devrait nous faire réfléchir. Est-ce que ma façon de mener ma vie a une mauvaise, c'est un mauvais exemple de Jésus-Christ? Donc, au verset 15 maintenant, regardez au verset 15, David dit, verset 14, « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Wow! Wow! C'est profond, le psaume 51. Hein? David, ici, il s'engage, ou on peut dire qu'il se réengage à enseigner les voies de Dieu. Il avait abandonné ce rôle de leadership spirituel de la nation lorsqu'il avait commencé à chercher ses propres intérêts égocentriques. Et comme j'ai souvent dit, mes amis, tu n'as pas besoin d'être très méchant pour blesser et faire du mal autour de toi. Tout ce que tu as besoin de faire, cherche tes intérêts à toi. Cherche tes intérêts à toi, pense à toi, puis inévitablement, tu vas blesser des gens autour de toi, tu vas léser les autres, inévitablement. Le problème, là, c'est qu'on est tous égocentriques. Bien plus qu'on pense. Donc, David, il s'engage à réparer en instruisant dans les voies de Dieu. Et regardez comment c'est beau à la fin du verset. « Et les pécheurs reviendront à toi. » Ah, wow! Pas juste enseigner les gens à suivre le bon chemin, mais les pécheurs reviendront. Parce que là, David, qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Il revient à Dieu. C'est là qu'on voit que, malgré qu'on a pu vraiment rater notre coup, avec Dieu, là, puis ça, je veux vous encourager par rapport à ça. Tu peux penser que ta vie est gâchée, tu peux penser que c'est irréparable, tu peux penser que tu as vraiment endommagé des choses irréparablement, là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Avec Dieu, là, tout est possible. Ça peut prendre du temps, mais on a un Dieu qui peut changer le mal en bien. Et avec David, il dit, « Moi, je suis revenu, revenez aussi. » Il s'engage à enseigner les voies de Dieu, puis les pécheurs reviendront à toi. Autrement dit, David va pouvoir parler de la grâce de Dieu. Parce que quand tu l'as expérimenté, tu peux le parler, tu peux en parler. Si tu ne l'as pas expérimenté, par exemple, ça reste une théorie. pas vrai? Donc, ça inclut la bonté et la compassion de Dieu envers ceux qui sont coupables. David désire ici reprendre ce rôle d'enseignant. Ça ressemble drôlement à faire des disciples. Puis un des signes qu'on s'éloigne de Dieu, là, c'est qu'on commence à vivre une vie égocentrique qui constitue une forme d'idolâtrie hein, et de péché envers Dieu. Puis là, on perd l'intérêt aux choses de Dieu, on perd l'intérêt de faire des disciples, on ne voit plus les besoins autour de nous, spirituels. Si tu as une famille, ça commence toujours là. Si tu as une famille, tu ne donnes plus la direction spirituelle ou morale à ta famille. Et ça peut s'installer très subtilement, très tranquillement. Tu deviens de plus en plus occupé au travail, par exemple. Tu es fatigué, épuisé. Alors, tu cherches le repos, la tranquillité, ou encore de te récompenser par toutes sortes de choses. Tu te dis peut-être dans ton cœur quelque chose comme, « J'ai travaillé fort, je suis en droit de me permettre telle ou telle chose. » Et par le fait même, tranquillement, tu n'es plus là pour ta famille. Tu es devenu centré sur toi-même. Tu ne te soucies plus de leur état spirituel. Tu ne vois pas les dangers qui les guettent. Tu ne te soucies plus de leur enseigner les voies de Dieu. Tu ne vois plus l'état spirituel de tes voisins, tes amis. Tu te dis, de toute façon, ils ne sont pas intéressés. Comment je sais tout ça? Comme d'habitude, parce que je l'ai vécu. Puis des fois, je le vis encore. On s'absente des rencontres de la famille de Dieu. On contribue à peu près pas ou très peu à la mission de l'Église que Jésus a dit à l'Église parce qu'on est trop occupé par d'autres choses. Et c'est ce qui est arrivé à David. Mais lorsqu'on revient à une relation intime avec Dieu, un Dieu qu'on a vu, il nous donne un cœur nouveau, un esprit bien disposé. Et qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on partage ses désirs à lui, sa mission à lui, son amour et souci pour les âmes perdues, pour les gens qu'on ne voyait plus. Donc, David nous donne un exemple ici. Et je me demande, est-ce que j'ai besoin de revenir à Dieu et réparer des choses comme mon leadership spirituel? Le leadership, comme j'ai dit, ça repose sur le modèle à suivre. La base du vrai leadership, c'est ça. C'est que les gens font confiance et veulent suivre le leader. Donc, ce n'est pas automatique. Et si on a perdu notre leadership, ça peut prendre du temps à rebâtir. Mais comme j'ai dit, tout est possible avec Dieu. Amen. Fait que si tu te rends compte ce matin que tu as perdu ton leadership spirituel en tant que homme, femme, employé, peu importe, voisin, tu peux demander à Dieu de réparer ce leadership spirituel. Demande-lui. Tu peux te rendre compte. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie de dire, « Oh, je pense que j'ai commencé à glisser puis j'ai plus le leadership de ma famille spirituelle. » Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que j'étais devenu trop égocentrique. Et là, je demande à Dieu, « Seigneur, répare ça. Répare mon leadership. Répare les relations que j'ai brisées ou que j'ai négligées. Répare. » Donc, tu peux prendre le même engagement que David ce matin en comptant sur l'appui de Dieu, sur sa grâce. Est-ce que Dieu veut ça? Oui, il veut ça. Il veut ça dans ta vie. Il veut que tu aies un leadership spirituel avec tes proches, mais par sa grâce et sa puissance. Qu'est-ce que David veut encore restaurer? Son rôle d'intercesseur. Regardez au verset 20. « Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. » Bâtit les murs de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il demande à Dieu de bénir Jérusalem, qui alors était le centre du plan rédempteur de Dieu. Hein? Le plan rédempteur de Dieu passait par la nation d'Israël, et Jérusalem était la ville que Dieu avait décidé de mettre son nom comme identifiée avec lui, le temple, etc., sa présence visible. Et là, David prie pour ça. Il prie, il intercède pour la nation qu'il dirige. Puis ça, c'est souvent la première chose qui prend le bord lorsqu'on s'éloigne de Dieu, hein? La prière. la prière pour nos enfants, pour nos voisins, pour les gens au travail. Je pense que probablement que l'année que David est resté là, loin de Dieu, j'imagine qu'il n'y a pas grand prière qui est sortie de là. Comme il n'y a pas grand psaume non plus. Et il ajoute à la fin du psaume qu'on offrira encore des sacrifices et des offrandes qui plaisent à Dieu sur son autel. Tantôt, il vient de dire que si tu t'aurais voulu des sacrifices, j'en aurais fait. Mais dans le fond, ce qu'il dit là, c'est que ce n'est pas juste les rites extérieurs, c'est le cœur qui est important. Dieu regarde au cœur. Mais un coup que le cœur est rétabli, bien oui, il y a des gestes à poser, il y a des choses à accomplir, il y a des œuvres que Dieu a mises devant nous. Et une des choses, c'est de prier. C'est intéressant que dans la vie chrétienne, les choses qui semblent les plus insignifiantes sont témoins de la vie la plus consacrée. Jésus dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, là, qui vous confiera des grandes choses? La prière, là, ça semble petit, mais quelqu'un qui est engagé dans la prière, c'est parce que cette personne-là est vraiment consacrée à Dieu. C'est les petites choses qui révèlent le cœur. Donc, David, ici, il prie, il veut être de nouveau un catalyseur pour conduire les gens à louer et à glorifier Dieu. C'est ce que David a fait toute sa vie jusqu'ici, là, jusqu'à ce qu'il trébuche puis il tombe dans le fossé, là. David était un catalyseur. Il inspirait les gens à venir louer Dieu, à adorer Dieu, à servir Dieu, à se battre pour le royaume de Dieu. Pas vrai? C'est vrai. Est-ce que tu voudrais être un catalyseur? Dieu peut faire ça pour toi. Il peut faire ça avec toi. Que Dieu soit exalté au centre de sa vie, de la vie de la famille et de la nation. Personne d'entre nous n'est parfait, loin de là, mais ici, on a le cœur qui désire revenir, restaurer, réparer. Alors, à travers toutes ces déclarations, on voit que David tente de réparer, de rétablir, en reprenant son rôle de leader pour le bien de sa nation. Puis tout ça, ça vient de Dieu. C'est pas Dieu, c'est pas David qui a inventé ça, ça vient de Dieu. C'est dans l'Évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il n'est pas seulement mort pour nos péchés, pour pardonner nos péchés, mais pour réparer et pour restaurer, pour faire quelque chose de beau. Donc, ce retour de David, ce psaume, met en lumière la grâce infinie de notre Dieu, met en lumière la beauté de l'Évangile. Maintenant, quelqu'un m'a demandé la semaine passée, puis j'ai trouvé ça vraiment excellent. Puis ça vaut la peine d'adresser ça. Oui, mais David, là, Dieu fait grâce, tout ça, oui, tout ça, mais ça veut dire qu'on peut pécher toute notre vie, puis juste à la fin, comme dire, « OK, je te demande pardon, puis être sauvé, puis ça serait l'idéal, là. Hein? » C'est comme un peu dire, est-ce que la grâce est une licence pour pécher? Fait que ce que j'aimerais faire dans le temps qui nous reste, c'est regarder trois raisons rapidement pourquoi la grâce n'est pas une licence pour pécher. Une sorte de lavoto automatisé que tu vas jouer dans la boue, puis tu reviens, puis tu passes à travers le lavoto, puis regarde, tu peux recommencer à jouer dans le boue. Trois raisons bibliques pour lesquelles la grâce n'est pas une licence pour pécher. Premièrement, parce que le péché, c'est dévastateur. Le péché brise non seulement la relation avec Dieu, mais comme on a vu, avec les autres. Et ça brise notre personne aussi. Satan, la Bible nous dit, est un voleur, un menteur, un tueur. Il n'a de projet que de voler, détruire et tuer. Il fait en entraînant les humains loin de Dieu dans les prisons de péché, ce qui brise les vies. Mais dans 1 Jean 3:8, il nous est dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres de Satan. Et il y a 2 semaines, on a vu les vases kintsugi, les vases japonaises, ce sont des vases qui ont été brisés, qui ont été réparés avec des soudures en or et qui en ressortent plus beaux et avec plus de valeur qu'avant. C'est l'histoire de David qu'on est en train de voir. Lorsque Dieu reconstruit la vie de quelqu'un, ça le glorifie. Et la chose la plus merveilleuse dans toute cette histoire de David, c'est que si Dieu peut faire ça pour lui, il peut le faire pour toi. Nous sommes tous des vases brisés, nous allons tous à Jésus poquer, nos vies sont fracassées. Jésus veut réclamer nos vies de la poubelle. Il n'est pas venu seulement pour sauver ton âme du jugement. Il est venu pour restaurer ta vie, parce que c'est lui le Créateur. Et tout ce que le péché a brisé, il veut réparer. Comme ses vases. Mais imaginez quelqu'un qui reçoit un de ses vases reconstruits en cadeau, puis qui dit, « Ah ben, il jette à terre. Pourquoi pas? Ils vont juste le reconstruire à nouveau. » Mais là, je pense que tu n'as pas compris, là. Hein? Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il n'a pas compris, là? L'idée première des artisans n'était pas de reconstruire la vase pour qu'elle soit détruite à nouveau. Comprenez? Parce que le péché brise. À un moment donné, ça ne sera plus réparable. Donc, le péché brise nos vies, les vies de ceux qui nous entourent, brise notre relation avec Dieu, premièrement. Et oui, le péché va nous offrir un plaisir momentané. C'est vrai. Il y a un plaisir momentané. La Bible dit qu'il y a un plaisir. Et c'est avec ça qu'on est apporté, ce petit plaisir momentané. Mais le plaisir, après, il mord comme l'écrou d'un serpent. Pas vrai? Le péché brise et la fin, c'est la mort. Imaginez quelqu'un qui suivrait la formation des AA, puis qui, au bout de 2 ou 3 ans, se dirait, « Bon, maintenant, je peux recommencer à boire. » Quoi? Ben, c'est la même chose avec la grâce. C'est la même chose. Tu es venu à Jésus-Christ pour te faire réconcilier avec Dieu, pour réparer la relation avec Dieu, réparer ta vie. Et là, tu voudrais recommencer à pécher? C'est un non-sens. Pas vrai? Parce que c'est destructeur. Le péché est destructeur. Tu veux retourner à cet esclavage que tu avais d'avant, d'être esclave de l'alcool puis de tout ce que ça a brisé alentour de toi? C'est la même chose. Pourquoi la grâce n'est pas une licence? Parce que la grâce, ça répare ce qui a été brisé et ça te délivre de l'esclavage. Deuxième raison, c'est que Christ est mort pour toi, oui, mais tu es mort avec lui. Tourne avec moi dans Romains 6. Puis bon, je ne serai pas capable de faire ce matin un exégèse très approfondi ou complète de ce passage-là, mais quand même, c'est pour faire ressortir le principe. Parce que c'est traité par la Bible, cette question-là. Romains 6, 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Il dit on est mort au péché. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il va l'expliquer. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Bon, ici, parenthèse, il ne parle pas du baptême de l'eau. Okay, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Ce n'est pas le cas. Le mot baptizo dans le grec, ça veut dire plonger. OK? Tu peux être plongé dans l'eau, mais tu peux être plongé dans d'autres choses. OK? Fait que plonger. Alors, il est plongé dans quoi ici? Dans l'eau? Non, en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été plongés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été plongés, submergés dans la mort de Jésus-Christ. OK? Parce que c'est le mot, c'est la traduction baptême là, qui confond les gens. Nous avons été donc ensevelis avec lui par l'immersion dans sa mort, par le fait d'être plongé dans sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Voyez-vous, il ne parle pas d'un baptême d'eau. Il parle d'être plongé en Christ et d'être unis avec lui dans la mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Alors, aux yeux de Dieu, si un jour tu as fait, ou tu fais un jour, cette déclaration à Dieu, j'accepte, ô Dieu, que Jésus-Christ soit mort à ma place à la croix, parce que moi, je méritais la mort, mais lui a accepté de prendre ma mort, il a accepté de payer pour mes péchés. Je prends ce sacrifice pour moi, je l'accepte. À ce moment-là, Dieu considère que tu es mort. Comment ça? Parce que Jésus est mort, pas pour lui. Il n'y avait pas de péché pour monter en croix pour lui, là. Il est monté en croix pour toi, en portant ton nom sur son dos. Fait que dans les livres de Dieu, là, si tu acceptes que Jésus soit mort pour toi, tu es mort avec lui. Dans ses livres, Brian Mathieu n'existe plus. Pourquoi? Parce que Brian Mathieu est mort. Il n'est pas mort physiquement, mais dans mes livres à moi, il est mort. Comment expliquer ça? C'est difficile à comprendre, je l'admets. Mais aujourd'hui, on vit avec un fléau qui s'appelle le vol d'identité. OK? Fait que, vous savez, c'est quoi le vol d'identité? Quelqu'un prend toutes vos informations et les subtilise, et là, devient toi. Et si cette personne-là fait des transactions, là, c'est comme si toi, tu les avais fait. Hein? Bon, ici, Jésus n'a pas volé ton identité. Mais quand tu viens au pied de la croix et tu dis, « Oui, Jésus, j'accepte que tu sois mort pour moi », il prend ton identité sur lui. Pourquoi? Il faut. Il faut, parce que dans les livres de Dieu, là, Brian Mathieu, il mérite la mort. Brian Mathieu a accepté que Jésus soit mort pour lui, donc Brian Mathieu est mort. Il n'a plus de pénalité qui pèse sur lui. C'est comme Jésus a fait ça pour moi, donc c'est comme moi. OK? Ah, c'est ça que Paul dit ici. Il y a une identification avec Jésus-Christ. Tu as été plongé en Jésus-Christ en sa mort. Pourquoi? Parce que maintenant, tu vas pouvoir être ressuscité avec lui. Tu vas pouvoir être ressuscité avec lui. Si tu ne t'identifies pas avec lui dans la mort, Dieu ne peut pas te ressusciter avec lui. Pourquoi? Parce que tu es encore dans tes péchés. Et tu vas mourir pour tes péchés. Donc, la seule solution, c'est que Jésus meure pour toi, mais tu t'identifies avec lui. Et c'est ça qui nous libère de l'esclavage du péché. Si tu es mort avec lui, il n'y a plus de mandat d'arrêt à ton nom. Tu es libre de toute condamnation et Dieu te déclare juste. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est que si tu acceptes cette offre qu'il meure à ta place, oui, tu meurs avec lui, mais tu seras également ressuscité avec lui. Et cette nouvelle vie de Christ vient t'habiter dès à présent. Cette nouvelle vie de résurrection vient habiter par l'Esprit de Dieu. Cette nouvelle nature vient, cette nature qui veut plaire à Dieu, qui peut vivre libre de l'esclavage. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la nature humaine déchue. C'est comme une greffe de cœur. Tu cèdes, si tu fais opérer pour le cœur, là, j'en ai connu des patients qui se sont fait greffer le cœur. Il fallait qu'ils acceptent premièrement quoi? Que leur cœur soit enlevé. Il fallait qu'ils cèdent leur vie pour recevoir une vie. Et c'est la même chose. On parle ici d'une greffe de cœur. Tu cèdes ton cœur malade pour en recevoir un nouveau. Donc, comme j'ai dit, l'Évangile, ce n'est pas du moralisme, fais ceci, fais cela, continue de venir, lire ta Bible, prier, tout ça, et tu vas devenir un enfant de Dieu. C'est une greffe de cœur que ça te prend. C'est cette nouvelle nature qui est greffée. L'autre nature reste, mais elle est détruite aux yeux de Dieu. Bon, c'est la deuxième raison pourquoi la grâce n'est pas une licence pour pécher. Parce que si Christ est mort pour toi, tu es mort avec lui, tu es mort au péché pour vivre en nouveauté de vie. Amen. Troisième raison, la grâce nous éduque à mener une vie de respect pour Dieu. Tournez dans Tite. Ça, c'est vraiment aussi extraordinaire. Tite, chapitre 2. Tite, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, OK? Qu'est-ce que Paul dit ici au chapitre 2, verset 11? En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Ça va jusque-là, on est tous d'accord. Amen. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. Elle nous éduque. Quoi? Elle nous enseigne. Quoi ça? Elle, la grâce. Elle, ça fait référence à la grâce. La grâce enseigne. Attends un peu là. Parce que dans la tête de la plupart du monde, puis moi aussi, on vient au Christ. La grâce est la source du salut, comme il dit là. Parfait. J'ai placé ma foi en Jésus-Christ. Il m'a sauvé de tous mes péchés. Il m'envoie au ciel. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qui va déterminer comment je vis et comment je marche? C'est que, dites-moi là, qu'est-ce qu'un chrétien doit faire? Qu'est-ce qu'un chrétien ne doit pas faire? Puis je vais marcher comme ça. C'est du moralisme. C'est le moralisme. On fait tout ça. On fait tout ça. Ce n'est pas l'Évangile. Ça ressemble à l'Évangile, mais ce n'est pas l'Évangile. Qu'est-ce qui nous éduque, Paul nous dit ici? Qu'est-ce qui nous enseigne? La grâce. Mais tu dis, ben voyons, comment ça marche, ça? Comment ça peut marcher? Voici comment. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous êtes un jeune homme qui débute une nouvelle carrière. Et ton papa retraité n'est pas un homme riche, mais dans sa grande générosité, il décide de sortir ses économies pour t'acheter un beau pick-up neuf. Alors là, vous allez dire, c'est juste pour les gars, cette histoire-là. Non. Au lac Saint-Jean, les filles conduisent des pick-up aussi. OK? C'est vrai. J'ai fait le saut en arrivant ici, mais c'est vrai. OK. Fait que ton papa, il t'achète un beau pick-up neuf. Et les pick-up, c'est plus fréquent que les autos ici, en lac Saint-Jean. Ça, c'est une autre affaire. Ça, j'ai réalisé ça. Mais un week-end, tu fais la fête avec tes amis et en faisant le fou au volant, tu prends le fossé, le beau pick-up neuf est une perte totale. Heureusement que tu en sors indemne. Tu supplies ton papa de te pardonner et tu regrettes sincèrement ta folie. Alors, à ton insu et malgré une santé fragile, ton papa retourne sur le marché du travail. Malheureusement, au bout d'une année, il fait un infarctus au travail et meurt. Tu rencontres le notaire pour la lecture du testament de ton père. Il t'annonce qu'en faisant beaucoup d'économies, ton papa réussit à accumuler assez d'argent pour t'acheter un autre pick-up. Le pick-up est livré dans ta cour et ce, au prix de la vie de ton papa. Vas-tu avoir envie de scraper le pick-up? Pourquoi? À cause de la grâce et de l'amour du papa manifesté dans ce pick-up-là. C'est l'image de toute cette grâce et cette bonté-là. Donc, la grâce nous éduque à nous détourner du mal et à vivre en nouveauté de vie. Parce que tu dis, Seigneur, tu n'avais pas besoin de venir et de te sacrifier comme ça sur la croix. Seigneur, tu t'es laissé prendre, tu t'es laissé crucifier sur la croix, ton sang coulé, ta vie, c'est parti de ton corps et tu l'as fait pour moi, moi qui avais scrappé ma vie. Oui. La grâce du papa dans l'histoire, c'est la puissance transformatrice qui maintenant est beaucoup plus puissante que de dire « fais ci, fais pas ça ». Moi, je ne veux pas déshonorer mon Seigneur Jésus, toi. Moi, je ne veux pas cracher sur tout ce qu'il a fait pour moi. C'est pourquoi je mène une vie pour l'honorer. La grâce m'éduque. La grâce, non la loi. Qu'est-ce qu'on fait avec la loi? La loi, là, la loi de Moïse et toutes les lois de l'Ancien Testament, on jette ça aux poubelles? Non. Ça, c'est comme des poteaux indicateurs sur le bord du chemin. C'est comme t'indiquer où est la limite, la vitesse, etc. Fais attention, céder la voie. La loi, ce sont des signes, des pancartes qui nous avertissent, qui nous balisent, qui disent « OK, attention, tu es en train de sortir du chemin. » OK, mais la loi, là, elle ne peut aucunement te donner le désir ou le pouvoir de ne pas sortir du chemin. Ça, ça vient d'ailleurs. Ça vient d'une motivation intérieure. Et c'est pour ça que Paul ici dit « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, amen, a été manifestée, oui, et elle nous éduque, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre dans le siècle présent. » Donc, pourquoi la grâce n'est pas une licence pour pécher? Voilà, parce que la grâce éduque le contraire. Donc, si tu ne vis pas une vie qui ressemble à Jésus-Christ, c'est peut-être parce que tu n'as jamais vraiment saisi la grâce. En fait, c'est la seule solution. C'est de saisir la grâce de Jésus-Christ. Tu avais dit, « Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. » Et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dieu a pourvu le paiement, Jésus s'est sacrifié à la croix. Dieu a pourvu le chemin, Jésus est ce chemin. Dieu a pourvu à la mort, Jésus est ta mort. Dieu a pourvu une vie, Jésus est ta vie. Dieu a permis que David chute. Il a permis tout ce qu'il a fait, que ça puisse être dévoilé au grand jour. Pourquoi? Pour le mépriser, David, pour dire, pour que tout le monde dise, pour l'éternité, David, ouais, t'as vraiment manqué ton coup, hein? David, hypocrite, hein? Non. Pour que la grâce de Dieu soit manifestée en lui. Cet épisode de la chute, de la réparation, la réconciliation de David, c'est la chose la plus importante de toute l'histoire de David. Tout cela a été inscrit pour démontrer la richesse de la grâce de Dieu envers les pécheurs. Il a pardonné David, il l'a accueilli à bras ouverts pour restaurer la relation. La grande morale de cette histoire, c'est que si Dieu a fait ça pour David, il peut le faire pour toi. David dit aussi dans les psaumes, « Quand on tourne vers lui les regards, on est couvert de honte? » Non, on est rayonnant de joie à cause de Jésus. Uniquement à cause de Jésus. Alors, j'aurais jamais cru qu'on passerait 4 ou 5 semaines sur le psaume 51, mais le psaume 51, c'est le cœur de l'Évangile. Et j'espère que chacun de nous, on va pouvoir en tirer instruction pour nos propres vies, pour la gloire de Jésus. Amen, Robert.